versets clés et ensuite on commencera. Donc Daniel chapitre 3 versets 16 à 18. Donc le contexte est celui où le roi Nebuchadnezzar a levé, donc c'était Nébu pour les intimes, Nébu qui a levé une statue d'or et qui demande à ce que tout le monde l'adore. Et puis là, on se retrouve avec Shadrach, Meshach et Abednego qui disent non. Donc Chanel, tu vas lire. S'il te plaît, on reste sur de bonnes bases. Donc, oui, tu peux y aller.
Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut-être peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi.
Très bien. Donc on a nos trois héros qui se retrouvent devant le roi. Le roi leur fait une pression et leur dit, maintenant vous allez vous incliner, si vous ne vous inclinez pas, vous vous retrouvez dans la fournaise. Et bien là, ça va mal se passer pour eux. Et eux, ils lui répondent gentiment, écoute, on ne s'inclinera pas et puis on n'adorera pas tes dieux. Ensuite, on arrive quelques versets plus loin, au verset 23 et 26. Donc tu peux lire toujours Chanel et me suivre. Alors tu peux mettre Daniel chapitre 3 verset 23-26. Pour ceux qui ont leur Bible, c'est très bien, c'est le moment de dégainer.
Dégainage.
Ça vient, non? Donc je vais lire.
C'est bon. Quant à Shadrach, Meshach et Abednego, ils tombèrent tous les trois ligotés au milieu de la fournaise où brûlait un feu ardent.
Tu peux continuer?
C'est alors que le roi Nebuchodonosor fut saisi de stupeur. Il se leva précipitamment et s'adressant à ses conseillers, il demanda: n'avons-nous pas jeté trois hommes tout ligotés dans le feu? Ils répondirent au roi: bien sûr, Majesté.
Alors,
eh bien, reprit le roi, je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu, sans subir aucun dommage corporel, et le quatrième a l'aspect d'un fils des dieux.
Alors, est-ce que ça va, Ben?
Le 26.
T'as tous les versets?
Oui.
Puis Nébu s'approcha de la porte de la fournaise où brûlait un feu ardent et se mit à crier: Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu Très-Haut, sortez de là et venez ici. Alors Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu.
Très bien. Donc la semaine passée, on a établi quoi? On a établi que à ce moment-là, Nébu, c'est une tentative pour lui de diviniser l'homme. Voilà, il nous balance sa statue de 30 mètres. Il demande à tout le monde de l'adorer. Et c'est le moment pour lui de glorifier son moi. Et il demande, il impose l'adoration. Et on avait établi le fait qu'on ne peut pas imposer à qui que ce soit d'adorer quoi que ce soit. L'adoration vient du cœur. Donc ça, c'était la première chose qu'on avait vue. Ensuite, on avait parlé de cette pensée, quelque part, qui est la pensée de l'humanisme qui avait commencé avec Babel, qui a continué avec cette statue, et qui aujourd'hui, on appelle ça l'humanisme. Et puis, finalement, Dieu n'existe pas, tout est beau, la création et tout ce qu'il y a de plus grand. Ça va? Et puis, eux, ils se retrouvent là, et puis on les jette dans la fournaise. Et là, je veux attirer votre attention juste sur ce laps de temps. Ce laps de temps, pourquoi? Parce que la semaine passée, on avait parlé du fait que cette statue, elle n'a pas sorti de terre en quelques secondes. Elle n'est pas sortie de terre en quelques minutes. C'est quelque chose qui a dû prendre quelques années. Je n'ai pas étudié ça, mais ça a dû prendre quelques années. Ceux qui se connaissent mieux que moi, peut-être que vous le savez. Mais voilà. Et vous avez ces trois hommes qui sont là et ils savent très bien ce qui se passe. Ils sont déjà à la direction, ils ont une certaine place au niveau de la ville, là, et puis auprès du roi, et ils voient ça arriver. Et c'est des hommes de prière, c'est des hommes qui cherchent Dieu, c'est des hommes qui aiment Dieu, et ils se disent, non, c'est pas possible. À un moment donné, eh bien, il y aurait une limite à tout ça. Et ils voient la statue qui monte. Ils sont invités, tous les grands de ce monde sont invités, la télé et tout. Voilà, c'est le gros moment, c'est la situation du moment, il faut être là. Mais en même temps, les gens savent ce qui se passe. Ils n'adorent pas, ils sont fichus. Et eux, ils y vont. Ils auraient pu éviter cette situation. On part en voyage à ce moment-là, on évite le problème, et puis c'est facile, nous, on ne veut pas se confronter à ça. Tu comprends, notre foi, elle n'est pas en accord avec ça. Il faut qu'on évite ça. Et eux, non, ils vont jusqu'au bout du respect qu'ils peuvent avoir envers leurs autorités, envers le roi Nébu à ce moment-là. Et puis, ils y vont. Et là, qu'est-ce qui se passe? Au moment où tout l'orchestre se met à jouer, eh bien, eux, tout le monde s'incline et il y en a trois qui restent debout. Là, les espions, eh bien, ils ne se privent pas d'aller cafeter au roi qu'il y en a trois qui ne suivent pas. Et puis, il se retrouve devant le roi. Et c'est ce qu'on vient de dire. Donc, c'est quelque chose où je me suis dit, mais ils ne sont pas arrivés là par hasard. Ils ne sont pas arrivés devant le roi comme ça. Voilà, on n'est pas d'accord. Et puis, non, ça ne va pas. Il y avait toute une maturité chez ces jeunes. On sait qu'ils sont restés fidèles à Dieu. Et on avait parlé de cette foi qui est différente. Une foi qui ne négocie pas avec Dieu. Une foi qui est pertinente, qui a de la mâche. Moi, je vous avais dit la semaine passée, la foi, c'est le point de contact entre nous et Dieu. Et la foi en Christ, c'est le point de contact entre nous et Dieu. Mais à ce moment-là, Christ, il n'est pas révélé. Et imaginez ces trois, imaginez Jésus qui est là, il est assis sur son trône, et puis il regarde la situation. Et il ne se manifeste pas pour l'instant. Il les laisse faire, il reste debout. Ils sont là, ils voient qu'ils vont subir une oppression. Et puis, ils regardent. Et eux, dans leur foi, ils restent fermes. Tout le monde s'incline et ils sont trois. Imaginez, vous savez, il y a eu beaucoup d'expériences, vous voyez ça sur les réseaux sociaux, des expériences un peu sociales. Moi, j'en ai vu une qui était pas mal. Il y a 10 personnes dans une pièce, à 9 personnes, ils leur disent, voilà, au moment où il y a un bip dans une salle d'attente d'un médecin, il faut que vous leviez. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Et vous avez 9 personnes qui sont au courant, et les 9 personnes, au moment où il y a le bip, se lèvent. Et finalement, il y a une personne qui ne sait pas ce qui se passe. Et on met la 10e personne dans les 10 et on voit ce qu'elle va faire. Est-ce qu'elle va se lever ou est-ce qu'elle ne va pas se lever? Et là, vous avez les personnes qui sont assises, c'est rigolo parce qu'elles regardent une fois, tiens, sa bip, il se lève. Deux fois, sa bip, il se lève. Elles se disent, mais mince, moi aussi, je dois me lever. Et troisième fois, c'est pas pourquoi. Et vous voyez le besoin d'appartenance, le besoin, quelque part, d'appartenir à quelque chose. Et là, vous avez des milliers de personnes qui ont peur de la mort, et seuls trois ne suivent pas la masse. C'est impressionnant. Et Dieu est là, il voit tout ça. Il voit leur foi. Dieu se nourrit de la foi. Et il voit ce qui se passe. Et il attend quoi? Il attend le dernier moment pour se manifester. Pourquoi? Parce qu'on voit à Daniel chapitre 3, versets 16 et 18, quelque part, c'est l'ultime acte de foi de ces trois-là. Où ils répondent, eh bien, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main au roi. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Et là, Jésus se frotte les mains. Il dit, waouh, ah, c'est là, les amis. Il y a la pression, il y a devant eux la mort, et eux, ils tiennent. Ils regardent. Là, ils ne se manifestent pas encore. Et là, le roi dit, allez-y, on les jette. Là, les deux bonhommes, ils les amènent, tombent par terre. Et eux, il lui dit, ils tombent dans la fournaise. Et imaginez ce laps de temps. C'était quoi? Quelques minutes? 4 minutes? 5 minutes? Allez, 10 minutes, grand maximum. Et il tombe dans cette fournaise. Et ces 10 minutes-là, c'est ces 10 minutes-là où Jésus vient. Ces quelques minutes-là, c'est ces minutes où Jésus descend de son trône, et il descend, et il vient, et il s'installe dans la fournaise. Ils sont rentrés maintenant à 3, et ils se retrouvent à 4. Jésus, là. Imaginez 30 secondes que ces hommes avaient... s'était pas dressé devant le roi, n'avait pas répliqué, puis voilà. Eh bien, déjà, ils seraient passés à côté d'une rencontre avec Jésus, de quelques minutes. Imaginez 30 secondes que Jésus ne soit pas tombé et ne soit pas venu là à leur rencontre dans la fournaise. Ben, ça aurait été des gens qui auraient tenu leur conviction jusqu'au bout, jusqu'à la mort, et auraient dit, ah ben, ils sont victimes d'une injustice, et quelque part, eh ben, c'est des martyrs. Mais là, ce n'est pas ce qui se passe. Ces hommes sont mentionnés dans les héros de la foi. C'est-à-dire que leur foi est reconnue par Dieu. C'est leur foi qui a permis à Jésus de descendre. Il n'est même pas encore révélé. Il n'est même pas encore venu sur cette terre. Et donc, il y a 2 semaines, on a établi que c'était Jésus qui était là. Et la foi de ces hommes, à ce moment-là, appelle le Christ. Il vient là et vient à leur rencontre. Et la semaine passée, on s'est dit, ben voilà, Jésus nous attend dans la fournaise. Et c'était ma conclusion, de dire, voilà, Jésus nous attend dans la fournaise. Oh. C'est là où il vient à notre rencontre.
Aïe.
Il ne vient pas avant, il ne vient pas après, il vient pendant. Et c'est là où il manifeste quoi ? Sa gloire. Et ce matin, on a chanté « gloire à Dieu, alléluia », c'était magnifique. On a parlé que de la gloire de Dieu, que de la gloire de Dieu au travers de son Fils Jésus-Christ. Et là, c'était la gloire de Dieu au travers de Jésus qui est descendu dans cette fournaise. Vous me suivez ? Leur foi a fait descendre Jésus de son trône. Est-ce que vous vous rendez compte de l'histoire ? Pour quelques minutes, quelques secondes, Jésus a dit, et là il dit, je suis là, là je vais vous protéger. Et il fait 2 choses, il les protège et il les libère de leur rien. C'est les 2 choses qu'il fait. Comme s'il est en train de dire, vous voyez, ces 2-là ils m'appartiennent. Et ils ont décidé de m'adorer. Et vous ne pouvez mettre aucun lien sur ces hommes. Sur mes enfants, on ne peut mettre aucun lien. Parce qu'ils ont fait le choix de m'adorer. Et moi, si vous voulez maintenant les tuer et les nier, et là j'arrive. Parce que c'est mes enfants. C'est puissant, quand même. Sacré Shadrach. Hein. Oh là là. Ils ont des prénoms, c'est quelque chose. Il y a juste eu le temps, voilà, d'être protégé, de libérer. Il n'y a plus de lien, il n'y a aucun lien, aucune personne. Et la Bible ne dit pas aujourd'hui, on a établi qu'aujourd'hui Jésus était vivant. Jésus vit en nous, on a accepté Christ. Et la Bible ne dit pas dans Romains chapitre 3, elle nous dit qu'il n'y a plus aucune, que tous sont péchés, tous sont privés de la gloire de Dieu. Et ensuite qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont Jésus-Christ. Est-ce que c'est vrai? C'est-à-dire que pour toi et pour moi, Jésus a été révélé. On connaît Jésus, on sait qui il est le Messie, il est le Seigneur, il est notre roi, on l'a accepté. Mais avant, qu'est-ce qu'il écrit ? Il écrit que tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Le mot gloire veut littéralement dire le poids de Dieu. Suivez-moi bien, le poids de Dieu. La gloire de Dieu, c'est un poids. Imaginez les 3, ils arrivent et face aux circonstances, c'est une balance. Et alors, les circonstances font que la balance est en leur défaveur. Le roi a décidé de les mettre dans la fournaise. Ils n'ont aucun poids, leur parole n'a aucun poids. Ils n'ont rien fait pour pouvoir sortir de là. Et les poids, les circonstances, voilà, font que voilà, la balance du jugement humain a fait qu'ils doivent mourir. Et là, vous avez Jésus qui vient et qui dit, maintenant je viens, je manifeste ma gloire quelques secondes, et en manifestant sa gloire a un poids. Et vous savez, si je vous posais la question, combien pèses-tu ? Eh bien les femmes, les dames, si on leur pose cette question-là, attention, elles risquent de ne pas être contentes avec moi, mais l'important c'est de savoir, est-ce que j'ai du poids spirituellement ? Mais le poids spirituellement, ce n'est pas toi qui l'acquiert par toi-même, c'est parce que Jésus vient avec toi, et lui commence à peser dans ta vie. Et comme il pèse dans ta vie, eh bien tu as autorité sur les situations. Et là, il est venu, il s'est manifesté, et le poids de la gloire de Dieu s'est manifesté. C'est-à-dire qu'ils sont là, et là, Jésus se manifeste, et ça commence à peser en leur faveur. Mais ils ont juste dit, nous, Seigneur, c'est ta volonté, si tu nous libères, c'est bien, mais ils sont prêts à mourir. Et là, Jésus dit, c'est bon, j'arrive. Sa gloire se manifeste. Quelques secondes. Le plus dur, humainement, c'est pas le moment où ils arrivent dans la fournaise, c'est avant. C'est de résister au poids, de voir tout le monde qui s'incline, et moi je dois résister, là Jésus il n'est pas avec toi. C'est juste toi et tes convictions, c'est juste toi et ta foi. Jésus ne vient pas te souffler à ton oreille et dire résiste, c'est ton choix. Et là ils sont là, il faut qu'ils résistent, c'est difficile, tout le monde s'incline. Il y a quelqu'un qui les dénonce. Et là, ils ne commencent pas à dire, à crier à l'injustice, ils y vont tout simplement, ils voient la mort. Jésus n'est toujours pas là. Ils arrivent dans la fournaise, ça choque. L'homme naturel ne peut pas résister à ça. Moi, vous me mettez devant une fournaise, mais je ne résiste pas. L'humain ne peut pas résister à ça. Je mets la mort et la vie devant toi. Mais comment tu peux résister? Et eux, ils sont là. Nous n'avons pas à te répondre là-dessus. Ils avaient peur. Moi, je suis sûr qu'ils avaient peur. Mais leur foi là-dessus, là, l'homme spirituel là-dessus, ils ont un poids là. Et on y va. Et là, on les prend, on les jette maintenant. Et qui arrive? Jésus. C'est juste à ce moment-là où ils se manifestent. Jésus s'est nourri de leur foi pendant quelques minutes avant, quelques heures avant, et pendant toutes les heures où ils priaient, où ils cherchaient Dieu, où ils étaient en train de faire croître leur foi, la maturité, on a parlé de ce raisin-là qui a besoin de mûrir. Et bien, ils ont fait grandir, mais ils ne sont pas arrivés là, ils sont arrivés mûrs, là. Des hommes mûrs, pour être cités dans l'aéro de la foi, c'est qu'ils avaient une foi mûre. Une foi capable de renverser les montagnes. Une foi solide. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Tout homme qui vit aujourd'hui est privé de la gloire de Dieu. Et nous, quand on devient enfant de Dieu, on prend cette identité. Et la Bible nous dit que maintenant, on commence à être ces gens qui sont participants de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que Dieu commence à prendre la place et tu commences à peser.
Yes.
Tu commences à être lourd dans le monde spirituel. Face aux fournaises de ta vie. Là, il y a quelque chose qui se déclenche en toi. Et Jésus commence à peser. Il voit tes choix et il dit « Résiste là !» Mais il te regarde et il voit ce que tu es capable de faire par rapport à ta foi. Résiste maintenant. Tu vois les défis dans ton travail. Résiste. Parce que quand c'est dur, à un moment donné, je vais manifester ma gloire avec force. Ah là là, c'est le fonctionnement. On a parlé d'être émondé. On n'aime pas être émondé. Nous, on préférait l'évangile pour l'attitude. L'attitude, yes. Oui, c'est un peu. Mais vous voyez, ça ne marche pas comme ça. L'homme est influencé et influençable. Le péché nous a influencés. Mais lorsque Dieu vient vivre en toi, il y a ce poids. Et c'est lui qui commence à influencer ta vie. Et les circonstances autour de toi, tu commences à les voir plus de la même manière. Les circonstances, tu commences à prendre la hauteur dessus. Il peut tout arriver, mais tu dis, Seigneur, voilà, je n'ai pas à répondre là-dessus. Je sais qui est mon Dieu. Je sais qui est le Dieu que j'adore. Et moi, je peux venir devant une statue, ça ne me fera rien. Vous pouvez adorer la statue devant moi, ça ne me fera rien. Ce n'est pas un problème pour moi. Mais moi, je ne vais pas fléchir mes genoux devant quelque chose qui sort de la terre. Mais je vais rester debout pour adorer le Dieu qui est dans les cieux. Et c'est ça qu'il faut. Combien de chrétiens auraient dit, mais attends, je ne peux même pas regarder cette statue. Vous voyez l'idée? Eux, pas de problème, ils respectent. Au moment où il s'agit d'adorer, ils savent qu'ils adorent. Ils connaissent leur Dieu. Ils ont une relation avec lui. Et là, ils ne vont pas fléchir les genoux. Ça va, vous me suivez? Nos trois héros ont invité Christ dans la fournaise. C'est lui qui pèse dans la situation. Ils n'étaient pas meilleurs que les autres. Ils ne faisaient pas partie d'une élite spirituelle. Ils n'étaient pas différents. Ils étaient juste des adorateurs. Des gens qui avaient décidé de faire passer la cause de Dieu avant la leur. Avant leur propre vie. Ils ont fait passer Dieu. Et là, Dieu, il aime ça. Ça marche? Jésus se manifeste. Alors, on va parler de cette maturité spirituelle. Comme je vous ai dit, ils ne sont pas arrivés là par hasard, ils étaient déjà matures. Ils étaient déjà matures. On va lire on va aller dans le Nouveau Testament maintenant, Éphésiens 4, versets 11 à 14.
Comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leurs ruses dans les moyens de séduction.
C'est bon. Verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Vous avez parlé la semaine passée que nous devons être des enfants de Dieu solides. Nous devons être des personnes qui avons un caractère spirituel. Nous devons être des personnes qui ne sont pas, qui sont pas ballottées par tous nos sentiments, toutes sortes de choses qui passent dans nos têtes. Et puis nous devons être vraiment, nous devons nous positionner parce que Christ habite en nous. Et c'est lui maintenant qui est la priorité. C'est pas ma rancœur, ma susceptibilité, toutes ces choses-là qui doivent dicter ma vie. Mais c'est Christ qui vit en moi. D'accord ? Et alors la question est, voilà, aujourd'hui nous, à qui est-ce qu'on se mesure ? Et la Bible nous dit là que tu as ta mesure. C'est, s'il y avait une mesure, si la foi avait une unité de mesure, ce serait la mesure de Jésus. On mettrait 140 fois point JC. Ouais, ce serait la mesure. Ah, toi, tu as 122 point JC. Tu t'approches de lui. Vous voyez ? Et lui, bah, sa foi, la foi qui anime Christ, ce serait le signe infini pour les matheux. Et puis nous, on doit croître. Et à qui on se mesure ? On se mesure à Christ. Le problème, c'est que si tu commences à te mesurer à la personne qui est assise à côté de toi, t'as un problème. Parce que la personne qui est à côté de toi, certes, Christ vit en elle, elle est très bien, mais elle n'est pas Christ. Et elle n'est pas parfaite. Et le problème, c'est que si tu commences à copier la personne qui est à côté de toi, eh ben, tu commences à copier ses mêmes erreurs. Et là, vous savez, nous, en menuiserie, on appelle ça une cale de débit. Si je dois couper un morceau de bois de 30 cm, je coupe mon premier morceau, je prends tout le temps qu'il faut pour le couper à la bonne dimension, et ensuite, ce bois-là va être ma référence. Si je coupe celle-là, que je copie sur un autre bois, que je pose ma première cale à côté, et que je recoupe maintenant avec comme référence le deuxième bois, et que je fais ça 100 fois, vous pouvez être sûr qu'au bout, la centième fois, j'ai un centimètre d'écart. Parce que petit à petit, il y a des choses que je ne maîtrise pas. Et je vais passer à côté de mon modèle. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, Christ est notre modèle. Mais si tu copies les grands évangélistes, les grands prédicateurs, les gens qui sont remplis d'onction, ils ne sont pas parfaits. C'est très bien ce qu'ils peuvent t'apporter. C'est très bien ce que je peux t'apporter ce matin. Mais je ne suis pas parfait. Et Christ dit, vous avez besoin de venir à ma stature. Vous vous souvenez, il y a 4 semaines, je vous ai parlé que Dieu nous appelle à la perfection. Il ne nous appelle pas juste à être de mieux en mieux, il nous appelle à la perfection. Parce qu'en fait, Jésus, le modèle, c'est qui ? C'est Jésus. C'est Dieu fait homme, vivant comme nous sur cette terre, nous montrant l'exemple. Ça veut dire que regarder juste Dieu dans le ciel, c'est compliqué pour nous à copier. Comment veux-tu copier Dieu ? Il est là-haut, tu ne sais même pas comment il est. Qui a vu Dieu ici ? Moi, je n'ai pas vu Dieu. Je ne sais même pas ce qu'il mange le matin. Mais Jésus, j'ai la Bible et je vois comment il a vécu. Jésus, il a eu les mêmes souffrances que moi. Il a eu les mêmes défis. Et il était tout simplement parfait. Équilibré dans ses émotions. Équilibré dans son intellect. Équilibré dans son âme. Équilibré spirituellement. C'était pas Jésus chababababa tout le temps. C'était pas non plus le Jésus légaliste qui reprenait tout le monde. Mais c'était Jésus tout simplement parfait. Quand il fallait dire la vérité, il disait la vérité. Quand il fallait guérir, il guérissait. Quand il fallait aimer, il aimait. Et lui, c'est notre modèle. Ça veut dire que l'idéal, c'est qu'ensemble, voilà, on est tous là, et on a un modèle. Il est là. Et on copie tous le même modèle.
Yeah.
Tous avec des défauts différents. Et puis la Bible dit, bah écoute, bah, vas-y, mais ça sert à quoi les pasteurs les... Mais c'est pas compliqué. Tous les ministères, ils servent à quoi ? Ils servent à dire, hey Thierry, regarde, c'est pas moi qui dois regarder, c'est lui là-bas. Tu commences à te tromper là. Regarde là, parce que là, c'est parfait. Vous savez, dans la relation apprenti-maître, c'est une relation forte. Moi, j'ai vécu cet apprentissage. En tant que menuisier, il a fallu que j'apprenne de mon maître. Il sait beaucoup plus de choses que moi et il faut que j'apprenne son savoir, que je connaisse son savoir. Je ne travaillais pas à mon titre personnel, au titre d'Alexis Lecinq. Je travaillais pour Vincent. Et si je me déplaçais, je me déplaçais au nom de Vincent. Je travaillais à sa manière. Il y avait peut-être plusieurs manières de faire, mais c'était à la manière de Vincent. Pas la mienne. Même si je considérais que c'était peut-être mieux différemment, je faisais comme lui disait. D'accord ? Mais je ne commençais pas à copier mon collègue. Je copiais le maître. Mon collègue pouvait me donner un conseil. Écoute, fais comme ça. Mais il fallait que je m'assure que c'était bien ce que le maître voulait. Parce que sinon, je sciais en biais. Et puis, il fallait scier droit parce que le collègue m'a dit qu'il fallait scier biais. Et puis après, le patron, il venait, il disait, mais attends, écoute, tu ne m'as pas demandé avant, ça m'est déjà arrivé. C'est le maître qu'on suit. Il y a une relation forte, là. Et nos trois héros, ils ont suivi le maître. Ils ne se sont pas inclinés. Vous savez, il y a très bonnes choses dans le monde. Il y en a plein de bonnes, dans tous les domaines. Mais si tu commences à trop copier le monde, tu vas finir à genoux devant une idole. Parce que un an, tu vas copier, ça ira, tu ne seras pas trop déformé. 2 ans, tu vas copier, tu vas commencer à dériver. 3 ans, tu vas copier et tu vas commencer. Tu vas te retrouver devant une idole. Soit à la gloire de ce que toi, tu fais de bien, soit à la gloire de ce que le monde te donne de bien. Et ça, c'est une idole. Ça marche ? Mais ensemble, on veut s'encourager à copier le maître.
Oh, il est bien.
Parce que quand je vais copier le maître toute ma vie, ah, c'est dur au travail, mais je sais, Seigneur, tu veux que je sois fidèle. Ah, Seigneur, tu vois là, voilà, Seigneur, tu veux que j'ai de l'amour. C'est dur, vous voyez, tu dis, Jésus, viens m'aider, c'est dur. Et puis Jésus, il te remplit, donne une dose de plus d'amour. Parce qu'à un moment donné, à chaque fois, tu arrives au bout du naturel. Vous savez, ils sont arrivés, ils étaient au bout du naturel. Ils étaient face à la fournaise et leur peau, elle n'était pas en titane. Elle était tiède, le feu allait les brûler. C'était la limite du réel. C'était leur réalité. Ils allaient brûler. Ils avaient beau être gentils avec le roi, faire tout ce qu'il fallait, ils étaient politesse, être patients, venir au rassemblement pour la statue. Ils se retrouvent dans la fournaise. Ils arrivent à la limite de l'humain. Et là, ils ont besoin de qui ? Ils ont besoin de Jésus. Et là, Jésus, là où les autres s'arrêtent, il t'aide à continuer. Là où tu touches à tes limitations, Jésus dit, maintenant j'arrive. Parce que maintenant, tu as besoin de moi. Oh là là, moi, ça me plaît, ça. Luc 6, 40. Tu l'avais, je te l'avais donné. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Nous devons être comme notre maître. Plus loin, Paul dira, Philippiens 3, 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, que j'ai déjà remporté le prix, que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de les saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Il nous parle de perfection. Je veux courir vers cette perfection de Jésus-Christ, parce qu'il vit en moi. Antonia, tu me suis.
Yeah.
Il vit en toi.
Amen. Oh.
Alors, on va lire un petit extrait de Acte 19, j'aime bien cette histoire, Acte 19, versets 13 à 16, et on va voir ce qui se passe quand on essaie de copier autre chose que Christ. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche !» Ils ne voient pas le faire. Paul est puissant. Paul a une relation avec Jésus. Jésus s'est manifesté à lui. Paul dira « Jésus m'a enseigné directement. » C'est incroyable ça, moi, si Jésus pouvait m'enseigner directement. Mais waouh, 1 minute avec Jésus. Mais ta vie est chamboulée. 2 minutes avec Jésus, ta vie est transformée. Et Paul est là, et puis il manifeste des choses tout comme Jésus les manifestait. Et il y en a deux là qui se disent « Mais nous, on veut faire la même chose. On va gagner de l'argent là. Si on commence à chasser les démons, à faire des belles choses, mais là, on va gagner de l'argent. » Et alors, je suis où ? L'esprit malin leur répondu, le monde spirituel commence à leur parler. Je connais Jésus, parce que lui, il est un poids spirituel, lui, il pèse, il veut dire quelque chose. Et je sais qui est Paul.
Samuel,
il sait qui est Paul, hein ? Mais vous, qui êtes-vous ? Je ne connais pas. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés.
Oh. Aïe.
Quand tu touches à ces choses-là, t'as intérêt à avoir du poids. Parce que si t'as pas de poids, tu t'envoles. Voilà ce qui se produit lorsqu'on essaie de copier le surnaturel. Notre foi est en Christ et elle produit un fruit éternel. Il l'a dit dès. Notre foi est en Christ, elle produit un fruit éternel. Vous vous souvenez de Vincent en fait, qui a dit ce fruit c'est quoi? C'est l'amour. Il n'y a que l'amour qui va durer. Notre foi en Jésus-Christ vient vivre en toi. On dit que l'Esprit de Christ descend en toi lorsque tu reconnais vraiment Jésus. Tu tournes, tu changes de direction, tu abandonnes tes péchés par la foi. Tu dis Jésus, j'ai besoin de toi. C'est plus possible ça dans ma vie. On dit que l'Esprit de Christ vient sur toi. Tu reçois les armes de l'Esprit et puis les fruits de l'Esprit viennent vivre en toi. Galates 5, on va mettre les fruits. Qu'est-ce qui vient vivre en toi? C'est l'Esprit de Christ.
Amen.
Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Premièrement, l'amour vient en toi. Ce que tu ne pouvais pas aimer avant, tu l'aimes maintenant. Les ennemis que tu ne pouvais pas aimer, tu commences à les aimer. La paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité et la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne pas certes de telles choses. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs, puisque l'Esprit est la source de notre vie. Laissons-le aussi diriger notre conduite. Alors, quand tu acceptes le Christ, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Tu as ces fruits qui commencent à perdurer en toi. Tu commences à les travailler. C'est toute ta vie. Toute ta vie. Tu dis, j'ai besoin d'aimer. Jésus, viens m'aimer plus. Il faut que j'aime davantage. Moi, j'ai un témoignage fort. Hein. Il y avait un temps avec ma chère épouse Chanel, on était tellement dans le rush que c'était j'abattais les tâches. Pou, 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 pou. Une machine de compétition. Moi-même, je ne me reconnaissais plus. Mais je commençais à répondre à ma femme d'une certaine manière. Ça, elle n'aimait pas trop ça. Hein. Ma femme, elle a du caractère. Elle ne va pas dire c'est gentil, baisser la tête et dire je vais fatiguer mon mari, j'accepte. Non, tout de suite, hein, c'est, tu ne me parles pas comme ça. elle laisse pas 30 secondes, hein, je ne vais pas dire hein, je n'ai pas le droit d'être un peu. Hein, c'est... Et là, j'étais dans ma voiture, j'allais au travail et je dis Seigneur, j'ai un manque d'amour pour ma femme. Je suis arrivé à la limite de mon amour humain. Avec la vie qu'on mène aujourd'hui, je me rends compte que j'arrive pas à l'aimer plus. Je me suis dit, il y a un problème. J'étais dans ma voiture et là, j'ai tourné mes yeux vers l'Esprit de Dieu. J'ai dit, Saint-Esprit, aide-moi. C'est toi qui donnes les fruits de l'Esprit. Donne-moi du monde comme toi tu l'aimes. Elle n'est pas mauvaise, c'est à cause de moi. Mais regarde mes limitations. Je cours tellement que j'arrive plus à aimer. Mais c'est l'amour le principal. Reste après. Et là, j'ai senti cet amour qui venait en moi. Et je l'aimais comme jamais. Mais ça, c'est pas juste une fois que je dois le vivre. Il faut le vivre à chaque fois. Et ça, sur chaque fruit de l'esprit, on peut le vivre. Chaque fruit de l'esprit. Seigneur, tu vois là, eh bien, je manque de bonté. Je manque de bonté, Seigneur. Mais aide-moi parce que ma bonté humaine, là, elle est arrivée à sa limite. Il faut que tu viennes vivre en moi. C'est les fruits dans ton quotidien qui... Les fruits de l'esprit qui font que tu vis dans le quotidien, dans ton réel, dans ta vie réelle, dans ta réalité. Voilà, les fruits sont là et tu commences à les manifester dans ton travail, dans chaque situation, jusqu'au moment où il y a une fournaise qui arrive là. Et là, tu vas voir que même ces fruits-là vont être limités. Parce que là, tu as besoin de la présence de Dieu. La fournaise va se mettre devant toi et tu as besoin de Jésus en personne. Bien. Et là, tu vas passer peut-être 30 secondes dans la présence de Jésus. Et là, t'es reparti pour 8 mois. Ça va? Vous me suivez? Nous sommes appelés à copier Christ. Afin que dans le quotidien, notre foi puisse croire. Si ta foi ne croit pas, eh bien, quelque part, tu vas être balayé. Mais Jésus est venu là. Il nous a montré ce modèle. Il était parfait. Imaginez cette perfection. Il était là et puis quand il y avait un des disciples qui l'agaçait avec ses manières de raisonner, il réagissait bien. Et puis hop, il disait avec lui. Et puis quand les pharisiens venaient pour l'éprouver, hop, la sagesse. C'est impressionnant ça. Imaginez ce camembert, son âme parfaite. Il y a plusieurs types d'hommes. L'homme cartésien, qui va tout faire à partir du moment où c'est contrôlé, où tu vas tout calculer, tu t'engages dans rien tant que tu n'es pas sûr que c'est bon. Tu raisonnes. Ensuite, vous avez les émotionnels. Tous leurs choix sont faits en fonction de leurs émotions. Si ton émotion, si quelqu'un te l'a fait à l'envers, ah mais celui-là, tu ne le vois plus. Hein. Jésus, lui, il était parfait. Ses choix étaient faits par rapport à quoi ? À l'Esprit de Dieu qui vit en lui. Oh là là. Quelle perfection, n'est-ce pas ? Ça va, vous me suivez toujours ? Alors Jésus, on va voir dans le chapitre, verset 52, Jésus est notre modèle. Et lui-même, Jésus, croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes.
Amen.
Lui-même a besoin de croître. Au moment où il est arrivé à sa maturité, c'est là où il a pu exploiter tout son potentiel. Alors on a besoin de croître. Je récapitule, il y avait une fournaise. Nos trois là ne sont pas arrivés par hasard devant cette fournaise. C'était des gens qui étaient arrivés à une certaine maturité. Ils ont pu se positionner déjà bien avant. Ils se sont présentés et puis là, ils se sont retrouvés quelques secondes dans la fournaise et c'est à ce moment-là que Jésus s'est manifesté. C'est dans leur fournaise. Ils sont rentrés à trois dans la fournaise, ils étaient à quatre et ils sont sortis à trois. Au moment où ils sortent, Jésus ne les suit pas. Il reste là. Il dit, je t'attends dans la prochaine fournaise. Je t'attends. Parce qu'il faut que tu crois. Et là, il attend, il rentre à trois, imaginez, il rentre à trois, ils sont quatre, ils ressortent, ils sont trois. Moi, j'aurais dit, Jésus, viens de là. Parfois, on vit des moments difficiles, et on vit la présence de Dieu, et on a envie que ça dure. Hein? On est dans la présence de Dieu, c'est génial, t'es dans une... Peu importe, chez toi, dans ta réunion de prière, au culte, à l'intercession, peu importe, et t'as la présence de Dieu, c'est génial. Et toi, le lendemain, qu'est-ce que tu veux? Tu veux encore la présence de Dieu. Et Jésus, il dit, mais non, faut que tu travailles maintenant. C'est l'étape supplémentaire. Il dit, continue, je t'attends à la prochaine étape. Ça marche ? Alors ça, c'est les fruits. Les fruits de l'esprit ne viennent pas du baptême du Saint-Esprit. On est une église charismatique, il faut que ce soit clair. Quand Jésus vient vivre en toi par la foi, tu reçois l'Esprit de Christ qui vit en toi. L'Esprit de Christ produit les fruits. Mais je vous rappelle que Jésus est notre modèle. S'il est notre modèle, on est appelé à faire les œuvres. Il a dit, vous ferez des œuvres plus grandes que moi. Et qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Eh bien, il a libéré, il a guéri, il a manifesté sa gloire partout où il pouvait manifester sa gloire. Et ça vient à travers de quoi? À travers de son baptême du Saint-Esprit qui vient, qui te remplit et qui dit, maintenant, tu vas faire les mêmes œuvres que moi. Maintenant, là où il y a un paralytique, et là où juste ton amour et ta bonté, il y a une limite, tu as besoin que je vienne dans cette fournaise. Tu as besoin que je manifeste ma gloire. Tu as besoin que je pèse dans cette situation. Tu as besoin que quand je prie, il y ait quelque chose qui change. J'ai aimé la citation de notre ami Sam, hein, il est présent sur les réseaux sociaux, c'est fou. Hein? Et j'ai lu ta citation qui a dit, mais quand j'y vais dans la rue, pour être puissant, il se passe rien. Mais quand j'y vais en me disant, mais Seigneur, je suis faible, c'est là où il se passe quelque chose de puissant. C'est vrai ou c'est pas vrai? La semaine passée, c'est pas pour mettre Samuel en avant, mais il nous a parlé de ce qui se passait dans la rue. Que les malades repartent avec leur béquille. Hein, Joanne, c'était ça, on a pu parler, tu nous as demandé, donc Samuel a témoigné. Mais Dieu ne te demande pas juste de vivre ta vie de chrétien, être bien avec les fruits d'esprit, et être bon, et être génial. Il demande maintenant que tu ailles plus loin. Il dit, mais attends, là, il y a des situations, il faut que je manifeste ma gloire. Je te regarde et il faut que je vois ta foi, là, parce que là, il faut que je puisse te libérer un petit don de connaissance, là. Un petit don de miracle. un petit bond de foi. Parce que là où tout le monde s'arrête, il faut que toi tu puisses prendre position. Cherche un homme, cherche juste un homme. Cherche pas forcément toute l'assemblée, mais un seul d'entre vous dans cette situation qui va avoir la foi que je veux. Et il en cherche un. Il suffit d'un seul. Il suffit d'un seul pour notre quartier. Il suffit d'un seul pour notre pays, notre nation. Mais Jésus dit, j'ai besoin de quelqu'un là qui va manifester cette foi. Qu'il soit mûr maintenant. Et là, je vais me manifester puissant. Ça va?
D'accord.
Amen.
Amen.
On ne va pas parler plus. C'était un peu la conclusion de nos 3 semaines. Tout ce qu'on a entendu, on a prié, on a réclamé, on a demandé beaucoup de choses. On a parlé de la gloire de Dieu ce matin. Et la gloire de Dieu, c'est ce qui pèse dans ta vie. Ce n'est pas ta façon d'être, ce n'est pas ce que tu peux, les œuvres que tu peux produire, c'est la gloire de Dieu qui s'attache à toi, et toi tu deviens spectateur de la gloire de Dieu dans ta vie. Ça va?
Oui.
Alors ce matin, on va juste prier quelques minutes.